Bonsoir. Deux thèmes dans cette émission. Arrivée de la dépouille mortelle de Tshisekedi ce jeudi à Kinshasa. La RDC a enregistré ces derniers temps plusieurs cas de naufrages sur ses rivières et lacs. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la Presse. Dans cette émission, nous avons Puy-Gérard Elenga, il est journaliste politique. Bonsoir Puy-Gérard Elenga.
Bonsoir Guy Maté et bonsoir à tous les auditeurs de cette émission.
Jean-Marie Kamboua, directeur de publication du journal L'Avenir, paraissant à Kinshasa. Bonsoir Jean-Marie Kamboua.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous nos auditeurs.
Et Alain Samuel Tshibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Bonsoir Alain Samuel Tshibata.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder le débat de ce soir, on écoute cette revue de presse que nous propose Kelly Nkouté.
Bonsoir. Les médias kinois sont revenus largement cette semaine sur l'arrivée de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi et du déroulement des obsèques populaires et officielles. Toute la ville est mobilisée pour communier avec l'arrivée de la dépouille d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, mort à Bruxelles le 1er février 2017, à l'âge de 84 ans, rapporte Le Potentiel. Des funérailles nationales lui sont réservées entre le 30 mai et le 1er juin 2019. C'est dans la liesse et la douleur que Kinshasa accueille la dépouille du sphinx de Limété, note le journal. Jeudi 30 mai 2019, tout Kinshasa s'est retrouvé dans les rues comme un certain 15 août 1992, lorsqu'Étienne Tshisekedi fut élu premier ministre au Palais du Peuple en marge de la conférence nationale souveraine pour s'incliner, cette fois-ci, devant sa mémoire, ajoute Le Phare. Et pour permettre à la population de réserver à Étienne Tshisekedi un accueil digne de son rang, renseigne 4 pouvoir.cd, la journée de jeudi 30 mai a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa par le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale. Un spot de l'hôtel de ville est diffusé depuis peu dans les différents médias, appelant les Kinoises et Kinois à une mobilisation pour rendre un vibrant hommage au leader Maximo Étienne Tshisekedi. Indique africanewsrdc.net. Le rapatriement de la dépouille mortelle de l'ancien premier ministre congolais Étienne Tshisekedi Wamulumba vers Kinshasa a été reporté pour des questions d'avion, annonce La Prospérité, qui cite des sources officielles. Mais à Kinshasa, pendant ce temps, le comité d'organisation a plutôt maintenu l'essentiel du dispositif d'accueil, poursuit Le Tabloïd. Un autre sujet qui a aussi fait l'actualité cette semaine, c'est le drame survenu sur le lac Maïndombé samedi 25 mai 2019. Au moins 30 corps sans vie ont été repêchés sur le lac Maïndombé dimanche 26 mai près du regroupement Lokanga après le naufrage la veille d'une embarcation motorisée, rapporte actualité.cd. Cette baleinière avec à son bord environ 400 personnes venait d'Ingongo et allait à Boliangwa en passant par Lokanga, précise le site web. Selon les informations fournies par la première équipe médicale qui s'est rendue sur place, 163 rescapés ont été identifiés, fait remarquer le portail. Cette sur cette point CD avance un chiffre lourd des 200 disparu. Casquempouvoir.cd affirme de son côté que la tempête serait la cause de cet accident.
Merci à vous, Kelly Nkouté. Jean-Marie Kamboua, directeur des publications du journal L'Avenir paraissant à Kinshasa. L'actualité était abondante cette semaine. Quelle est celle que vous commentez ce soir?
Merci Guy Maté pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer. Je voudrais d'abord, comme première actualité, donner un commentaire ou bien fustiger un comportement que je ne tolère pas. C'est celui qui fait de sorte que tous les documents officiels, je ne dis pas tous les documents, mais quand même des documents officiels, puissent se retrouver facilement dans les réseaux sociaux, ce qui est inadmissible. Là, je prends comme exemple les documents de la RTNC qui qui a élaboré un programme et qui sollicitait un financement auprès de la présidente de la République, un document adressé à la présidente de la République, malheureusement, qu'on a récolté, qu'on a rencontré dans les réseaux sociaux, ce qui est quand même déplorable. Je voudrais quand même insister pour que, lorsqu'il y a des documents officiels, qu'ils puissent garder leur caractère, leur qualité d'officiel, et qu'on ne les retrouve pas dans les réseaux sociaux, mais aussi soigner la qualité des collaborateurs avec qui nous travaillons. Donc, on ne travaille pas pour rendre compte ou bien faire du mal à quelqu'un, mais on travaille afin de rendre service à la communauté nationale. Peu importe ce qui a été ou ce que les documents contiennent, mais le problème est que c'est un document qui a un caractère d'officiel et qui est adressé à l'autorité. Donc, ces documents-là ne peuvent pas se retrouver dans les réseaux sociaux. Et s'ils se retrouvent dans les réseaux sociaux, ça ne peut qu'être décevant. Je voudrais aussi commenter, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires dans nos quartiers au sujet de cette journée fériée qui a été décrétée comme telle.
Hier jeudi.
Voilà, de comprendre que il fallait observer cette journée fériée. Pourquoi? Parce que c'est une foule qui déferle, une foule incontrôlée, une foule qui a l'émotion, qui a les sentiments. Et devant cette foule, c'est toujours prudent de protéger ses véhicules, toujours prudent de protéger ses biens pour qu'un jour, qu'on soit plus obligé de dire que non, voilà, la foule s'était déferlée sur mon véhicule, il y a eu des cas, c'est comme ça. Donc, en tant que pouvoir, il est tout à fait normal qu'ils prennent cette décision afin de protéger les biens et les personnes par rapport à cette population qui devait déferler de l'aéroport jusqu'au centre-ville.
Merci Pierre-Gérard Elenga, journaliste politique. Peut-être aussi un mot par rapport à ces documents officiels, c'est pas qu'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux comme l'a fustigé Jean-Marie Nkambwa.
Je salue mon frère Jean-Marie, mais je salue également Alain de l'autre côté de Lubumbashi. Et là, je suis porteur des salutations des filles et fils du Grand Équateur et de Bassankousou, en particulier ma ville, qui salue Guimaté. Parce que là, c'est la deuxième semaine consécutive où nous sommes invités. Donc, merci à Guimaté de leur part. Maintenant, je suis en train de dire ceci. Au-delà de ce que je veux dire, ça, c'est un comportement indécent. Moi, je crois que nous ne pouvons pas accepter ou vouloir les changements, donc vouloir quelque chose et son contraire au même moment. C'est vrai, Félix, c'est quelqu'un qui vraiment veut les changements. Mais à la limite, nous sommes en train de voir là la continuité de certaines méthodes que nous n'avons cessé jamais de décrier, au-delà du fait qu'il y a aujourd'hui l'évolution de ces nouvelles technologies ou de ces technologies de l'information et de la communication. Ceci est quand même indécent. Nous sommes où? Nous sommes au niveau de la présidence de la République. Il y a la notion de ce qu'on appelle le secret d'État. Jean-Marie était en train de le dire. Comment des documents officiels peuvent facilement comme ça sortir dans les réseaux sociaux, dans le média, les gens publient ça, tout cela. Moi, on m'a prise à partie. J'étais dans une émission ici. On me présente cette histoire de $52,000. Moi qui suis journaliste et cadre de la RTNC, je ne savais même pas. Mais je suis surpris. Bon, j'ai dit, bon, écoutez, au-delà de tout, si on demande ça au regard du travail que nous faisons, nous le méritons aussi, c'est pas grave. Mais c'est un comportement à fustiger parce que on peut faire la traçabilité. On peut comprendre, à la présidence, les travaux sont structurés, Guimaté. Il y a un opérateur de saisie, il y a une cellule de ceci ou de cela. On peut savoir qui a pris la photo, à quel niveau la photo a été prise pour diffuser comme ça les documents, et c'est pas sérieux. Alors, j'ajoute une phrase par rapport à ça également pour dire que au-delà de ce comportement, c'est aussi cette méthodologie que nous sentons, moi, jeu de preuve. C'est aujourd'hui l'occasion de faire comprendre l'opinion que le pasteur Kabundi Wallace avait raison. Effectivement, on le bloquait pour ne pas voir Félix. Et tous, nous allons utiliser cette méthode. Nous voulons voir Félix, vous bloquez, nous passons aux médias comme ça, de cette façon-là, il va nous recevoir. Vous voulez voir Félix, on vous exige de l'argent, on vous exige de donner ceci, faites cela, tout ça. Or, Félix lui-même a strictement et formellement interdit ce genre de méthodologie.
Merci.
Donc, je voulais rapidement commenter la propriété qu'il y a autour du stade. Ça, vraiment, bravo. Mais je me dis quand même que dans ces pays, nous avons un problème d'hommes. Ce sont les mêmes OVD, les mêmes offices de route. Mais regardez la beauté visuelle qu'il y a au niveau du stade des Martyrs. Je me disais, il fallait que quelqu'un, une personnalité meurt pour qu'on puisse avoir cette propriété. Donc on puisse la maintenir et que là où on a chassé les chèques pour la petite forêt qui était là, qu'on puisse ériger le palais des sports qui a été longtemps prévu à cet endroit. Merci Guimata.
Merci Alain Samuel Chibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. C'est quoi l'actualité qui domine aujourd'hui à Lubumbashi où vous êtes basé?
Merci beaucoup Guy Maté, merci également aux confrères qui sont en train de co-débattre ensemble avec moi l'émission ce soir. Je pense que l'actualité reste dominée par le ras-le-bol que les amis motards ainsi que taximans de taxi, Bisse Taxi, ont eu à, ils ont eu à manifester hein, la fin de semaine dernière. Ils étaient en train de crier au effort la tracasserie dont ils sont victimes hein, de la part de certains services de l'État, notamment le bureau 2, la maire, PNC, PCR et j'en passe. Et selon leurs propres mots, ces agents de l'État leur demandent 200 000 francs. Imaginez-vous pour un motard taximène, on lui demande 200 000 francs d'amende alors qu'il verse 10 000 francs à la fin de la journée, voyez-vous. Et donc ces chauffeurs ont brûlé les pneus et puis ils ont revendiqué, ils sont partis voir les gouverneurs. Et heureusement, ils ont été reçus par le numéro 1 de la province au Katanga. Cette attitude est en train d'inquiéter plus d'un habitant de la ville de Lubumbashi, d'autant plus que les autorités avaient interdit les agents de bureau 2 à mer de travailler sur la route pour tracasser les chauffeurs. Mais malheureusement, on est en train de constater que les agents de bureau 2 sont en train de se battre chaque jour pour être sur le terrain, demandant le rapport, deviner le rapport dont il est question. Et quand ils sont en cours de route, ils sont en train de tracasser les chauffeurs, ce qui n'est pas vraiment bien selon certains chauffeurs. Du matin, avec je voudrais également commenter depuis son avènement à la tête de la province du Katanga, le tout nouveau gouverneur de Katanga, Jacques Kabula Katwe, l'ancien président fort à des nombres de terrains. Nous l'avons vu, nous l'avons en train de constater depuis le lundi. Il ne termine pas sa journée dans son bureau. Heureusement, je suis en train de voir quels sont les signaux forts. Espérons que ça va ainsi continuer. Jacques Kabula a eu à visiter certains services de l'État, notamment les péages, beaucoup de services de l'État. Je ne saurais pas énumérer tous les services ici. Et aussi la police nationale congolaise, ici à Lubumbashi, il leur a également remis 15 VIP neufs. À certains Merci. Services de sécurité juste pour pallier à cette situation qui persiste dans la ville de Lubumbashi.
Merci Alain. Merci Alain Samuel Chibata. Nous abordons notre premier thème de ce soir. La dépouille mortelle de Tshisekedi est arrivée ce jeudi à Kinshasa. Et long cortège qui accompagnait le cercueil des ministres disparus et passés par le siège de l'UDPS, son parti politique, avant d'être déposé à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Mais qui était Étienne Tshisekedi? On écoute ses portraits réalisés par Donald Madimba.
C'est dès les premières années du Congo indépendant que son mariage avec la politique commence. À 28 ans à peine en 1960, Étienne Tshisekedi est déjà adjoint du ministre de la Justice de l'époque. Et c'est 5 ans après qu'il occupe son premier poste de ministre titulaire, celui de ministre de l'Intérieur en 1965. Mais entre-temps, c'est-à-dire de 1961 à 65, il occupe le poste de recteur de l'ENDA, École Nationale de Droit et d'Administration. Yachichi, comme le peuple aimait bien l'appeler affectueusement, collabore en 1967 à la rédaction de deux documents importants du pays. Le manifeste de l'Ancelé qui inspire plus tard la création du parti État, le MPR, mais également la première constitution du pays, celle de Luluabourg. En 1980, le président de l'UDPS critique dans une lettre et avec 12 autres de ses collègues députés la gestion Mobutu du pays. Lettre qui sera baptisée « Lettre ouverte de 13 parlementaires » nés à Kananga au Kasaï occidental en 1932 et le tout premier diplômé en droit du Congo en 1961, le sphinx délimité a surtout marqué l'histoire pour deux autres raisons. D'abord le nombre de fois qu'il est resté premier ministre, 3 au total et à chaque fois pour de très courtes durées, 1 mois et 2 jours en 1991, 7 mois et 3 jours entre 1992 et 1993 et enfin 7 jours seulement en avril 1997. Autre raison, c'est aussi par le fait qu'il est resté opposant à tous les régimes depuis les années 80 jusqu'à son décès. Il ne participa à la présidentielle qu'une seule fois, en novembre 2011, une élection qu'il n'est reconnu jamais avoir perdue. Un mérite cependant à mettre à l'actif du président de l'UDPS, selon les analystes, il est resté l'opposant le plus farouche et le plus constant dans ses positions, mais également la personnalité politique nationale qui a beaucoup contribué à l'avènement de la démocratie en RDC.
Merci à vous, Donald Madimba, Jean-Marie Cambois. 2 ans après sa mort à Bruxelles, la dépouille mortelle de Étienne Tshisekedi est enfin arrivée à Kinshasa. Comment vous réagissez à cela?
Des ans après, la dépouille est enfin là. Des ans après, Yatichi est enfin chez lui, où il va être enterré, un peu comme l'évoquait la Bible, où Joseph avait demandé à ses frères que lorsque je mourrai, ramenez chez moi pour que je puisse y reposer avec mes ancêtres. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un grand jour où Yatichi est revenu chez lui, où il va reposer avec ses ancêtres. Le fait que Yatichi revienne aujourd'hui, n'oublions pas aussi tout ce qu'il y a eu comme discussion, tout ce qu'il y a eu comme négociation, n'oublions pas tout ce qu'il y a eu comme négociation avec l'ancien régime, un ancien régime qui craignait, qui avait peur que lorsque le corps viendra, qu'il n'y ait déferlement de la population, qu'il y ait débordement et qui puisse en même temps causer une certaine insécurité. N'oublions pas aussi qu'il y avait des contradictions par rapport au lieu où il serait enterré. Il y en a qui parlaient de la permanence, il y en a qui parlaient de ceci ou de cela. Tous ces contextes-là ne pouvaient pas permettre à ce que son corps soit rapatrié. Et comme il y a eu changement à la tête de l'État, et comme c'est Félix Tshisekedi qui en est le président de la République et qui de surcroît est fils biologique de ces derniers. Alors, tout a été fait pour que les corps du Sphinx arrivent chez lui au pays où il va bien être enterré.
Oui, P. Gérard Elenga, peut-on dire que l'avènement du nouveau régime a été déterminant pour faciliter les rapatriements de la dépouille mortelle de Tshisekedi à Kinshasa?
Écoutez, merci Guy Maté pour la question. Moi, je suis chrétien, je suis lecteur de la Bible. Comprenez que tout ce qui se fait sur cette terre des hommes n'est pas un effet du hasard. Dieu est toujours le plus grand planificateur de nos vies, le plus grand planificateur des événements qui, vous voyez, se produire dans le monde. Alors, ironie du sort, coïncidence de l'histoire, ce sont des questionnements. Mais il faut dire quand même que dans ces pays, celui qui a été le bourreau de Lumumba, en l'occurrence le maréchal Mobutu, avait fait de ce dernier, quelques années après, héros national. Et Laurent Désiré Kabila, en mourant, comme aussi par heureuse coïncidence de l'histoire, c'est son fils qui le succéda et qui, à côté de l'Assemblée constituante, fait de son père héros national. Et là, au-delà de tout ce que nous avons compris, vous avez vu cette série, cette balade des réunions, aujourd'hui, demain entre les ministères de l'Intérieur, la famille et l'UDPS, pour le rapatriement du corps du Sphinx, ça n'a pas été le cas. Mais l'histoire aujourd'hui veut aussi, dans cette coïncidence, nous faire montrer que c'est peut-être Tshisekedi, Félix lui-même, qui élèverait au rang d'héros national son père. Alors, c'est quelque chose de très sûr parce que j'ai dit que la réflexion autour du rapatriement du corps de Étienne Tshisekedi a commencé le 24 janvier 2019 lorsque son fils était en train de prêter serment. La première des choses qui lui est venue en tête, j'imagine, c'est comment faire pour enfin rapatrier le corps de mon père ici dans ce pays. Alors, il faut dire que la personne de Tshisekedi, c'est une personne à la fois au niveau de sa marche qui paraît être un peu controversée. C'est vrai, tu sais qu'elle dit, Étienne n'est pas un saint, mais je crois quand même que l'essence de son combat pacifique par rapport à l'avènement de la démocratie dans notre pays, à cette époque-là, devant une dictature cruelle de quelqu'un comme Mobutu, qui a pendu les gens ici au niveau du stade des martyrs, qui a fait tout ce que vous pouvez imaginer, et quelqu'un qui pouvait lui dire non, je crois quand même qu'il faut saluer. Ce qui refait un peu le débat autour de son élévation au rang des héros national, moi je me dis modestement, ils peuvent consulter leur dictionnaire pour voir les trois différents sens du concept ou du mot héros national ou héros, et ils vont donner la réponse si Félix Tshisekedi, au regard de son combat politique, mérite-t-il d'être élevé à ses rangs, oui ou non. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
Alain Samuel Tshibata, comment la population louchoise a accueilli la nouvelle de l'arrivée du corps de Tshisekedi?
une très grande joie à Guimaté pour la population louchoise hein, qui attendait cet événement de grande importance. Vous savez que Tshisekedi n'a pas été n'importe qui dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui attendaient à son arrivée. Et vous allez trouver les calicots par-ci, par-là, qui démontrent combien la population louchoise en général était en train d'attendre hein, l'arrivée du corps du docteur Étienne Tshisekedi au Moulumba ici, en RDC. Mais du matin, laissez-moi vous dire également que, comme les confrères l'ont bien sûr parlé, je pense que l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête de ce pays a aussi impacté positivement, n'est-ce pas, pour que le rapatriement du corps du docteur soit vite fait ici en RDC. Vous êtes sans ignorer que Tshisekedi, le fils, même s'il n'était pas président de la RDC, mais en tant que qualité de fils, le fils de son père, il pouvait toujours se battre aux côtés des autres pour que le corps de son papa soit enterré dignement en tant que quelqu'un qui s'est battu, hein, qui a sacrifié presque toute sa vie, toute sa jeunesse, pour que l'instauration de la paix soit chose effective en RDC.
Oui, Jean-Marie Cambois, en tant qu'humain, quelles étaient les faiblesses et les forces, n'est-ce pas, d'Étienne Tshisekedi?
Oui, Guy Maté, comme on a eu à le dire sur ce plateau, Étienne Tshisekedi n'était pas un saint. En tant qu'humain, il avait ses défauts, mais il avait aussi ses grandes qualités que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Et je me trouverais un peu en difficulté de pouvoir insister sur les faiblesses. Les jours où nous fêtons un héros national, celui-là même qui a marqué par son combat la vie de toute une génération. Imaginez-vous, Guy Maté, aujourd'hui, de Tshisekedi, nous avons le mot fort qui est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, une idéologie, une stratégie qui est aujourd'hui à comparer avec ce que Donald Trump est en train de vendre à travers le monde, American Fest. American Fest ou Congolese Fest n'est qu'une façon pour les politiques, pour les gouvernements de se focaliser sur les Congolais, d'améliorer ses conditions de vie. Congolese Fest, c'est cette façon-là qui va permettre à ce que le Congo puisse se développer, mais tout en tenant compte du développement aussi de tous ses concitoyens. Guy Maté, lorsque nous considérons cette stratégie et au vu de toute notre histoire, nous nous rendons vraiment compte que si un accent est marqué particulièrement sur la vie du Congolais, ce pays ira de l'avant. Imaginez-vous un peu en pédagogie ce que nous avons étudié, Sa Majesté enfant. Si effectivement on veut développer ces pays, moi je pense qu'il faut que l'accent particulier soit marqué sur le développement du Congolais, sur son bien-être. Nous sommes Congolais et chaque fois que nous devons voyager, chaque fois que nous devons prendre un moyen de transport, nous sommes toujours déçus. Il est vrai que nous avons des gouvernements successifs. Nous avons Mobutu qui a été dans ce pays pendant une trentaine d'années, mais qui a été incapable de nous développer le pays pendant qu'il en avait le moyen, pendant que le pays, à l'époque, était encore premier producteur de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, quand même, nous nous rendons compte qu'il y a cette volonté-là de pouvoir permettre aux Congolais de jouir de ses propres richesses. C'est quand même anormal que nous avons un pays le plus riche du monde. Malheureusement, il y a un paradoxe qui fait que la population a du mal à tirer profit de toutes ces richesses que les créateurs nous ont données. Donc, s'il y a cette volonté politique pour que les Congolais puissent se retrouver à travers les richesses de son pays, nous ne pouvons que l'encourager. Et la stratégie générale d'Étienne Tshisekedi, ou bien la volonté ou les testaments qu'il lègue à la nation congolaise, c'est ces Congolais d'abord, c'est ces peuples d'abord pour lesquels il s'est battu et pour lesquels il voudrait que les conditions de vie puissent s'améliorer.
Voilà, et puis Gérard Elenga, les peuples d'abord, c'est le slogan, n'est-ce pas, qu'aimait beaucoup Étienne Tshisekedi, mais est-ce que vous pensez qu'après la mort de Tshisekedi, sa pensée a été bien cernée par les Congolais en général et l'UDPS en particulier?
Écoutez, les Congolais en général, oui, parce qu'il faut dire aujourd'hui que plus d'un Congolais se retrouve dans le sens de la lutte de Étienne Tshisekedi, en tout cas son combat politique. Vous le voyez au niveau du FCC, au niveau du CASH, pour parler de la Mouka et tous les autres, ils se disent tous des Tshisekedistes. Si vous prenez par exemple le FCC, en dehors peut-être de Kabila lui-même, mais tous les autres, ils sont passés par l'UDPS. Vous prenez la Mouka, les Fayoulou, tous les autres, ils sont passés par l'UDPS. Au niveau de la population du peuple congolais lui-même, il y a l'appropriation. Parce qu'il faut se dire qu'au-delà de tout, il y a certaines qualités que nous devons retenir de l'homme. Il y a d'abord le fait de braver la peur, de se dire que j'ai des droits et je peux réclamer mes droits comme il se doit. Parce que Mobutu n'était pas plus aïrois que Tshisekedi ou plus aïrois que les autres. La détermination et la constance. Ce sont des qualités qu'il faut relever par rapport à l'homme. Et aujourd'hui, nous voyons que...
La détermination et la constance, mais il y a des analystes qui estiment que même si ces qualités ont d'une manière crédibilisé Tshisekedi, cependant, il n'y a pas, n'est-ce pas, permis d'accéder au pouvoir politique.
Non, mais il peut ne pas avoir accès au pouvoir politique, mais il faut tout contextualiser, Guimaté. À cette époque-là, les dirans du haut des 32 années du maréchal Mobutu, tu sais qu'il dit, il n'y avait pas une démocratie telle que nous la voyons, telle que nous la vivons aujourd'hui. C'était quand même relativement un tout peu difficile. Mais je vais plutôt m'appesantir plus au niveau de l'UDPS. Comme par les
son miracles, parti politique.
Son parti politique. Comme par le miracle divin, si dans ce cercueil qui se trouve là maintenant au stade des martyrs, Étienne Tshisekedi ressuscite ou se réveille pour voir ce qui se passe à l'UDPS maintenant, je pense qu'il va rapidement verser ses larmes. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir finalement? Étienne Tshisekedi, c'était quelqu'un qui rassemblait, quelqu'un qui était là pour concilier. Parce qu'il faut se dire que même si c'est le camp de Kabound de Kabouya qui peut avoir raison, ou le camp de Jacquemin Chabanier et les autres, encore que je ne veux pas rentrer dans toutes ces considérations partisanes, selon que vous êtes proche de tel ou tel autre camp, selon aussi l'interprétation que chacun des camps fait par rapport au statut de l'UDPS, mais moi je vois l'UDPS comme patrimoine politique national. Ce qui se passe là fait la honte. Et je demande à Tshisekedi, à Félix, de faire vite pour essayer un peu d'aplanir toutes ces petites divergences internes que nous sommes en train de voir qui n'honorent pas les partis. Donc son combat a été certes au niveau de la population intériorisée, même au niveau de l'UDPS, parce que j'ai toujours dit l'UDPS c'est la base. Acheter les Félix, les Kabound, les Kabouya, tous les cadres comme les gens peuvent le croire, mais l'UDPS n'est pas un parti qu'on peut manipuler, qu'on peut acheter par qui que ce soit, parce que ce parti est incarné par la base.
Alain Samuel Tshibata, en évoquant, n'est-ce pas, l'héritage de Étienne Tshisekedi, puis Gérard Elenga a beaucoup plus parlé de son parti politique, l'UDPS. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe actuellement, et la situation qui prévaut actuellement au sein de l'UDPS, notamment par rapport à qui doit gérer les partis dans le contexte du moment, est-ce qu'on peut attribuer ça au fait que certaines personnes ont une conception erronée de l'héritage de Tshisekedi dans ses partis politiques, l'UDPS?
Merci Kimate pour la question, mais avant d'en arriver là, je voudrais peut-être revenir à ce que le confrère Pierre a pu dire. Il a dit que le peuple congolais a intériorisé la notion du peuple d'abord. Mais non, mais je dis non parce que vous voulez me dire que tous ceux qui ont dirigé ce pays avaient pour slogan le peuple d'abord, mais s'il vous plaît, ne mettons pas les propos qui sont un peu épidermiques. Vous voulez me dire que le pouvoir de Kabila, le pouvoir des autres, ils ont dû intérioriser la notion du peuple d'abord? Non. Ce n'était que le maître d'abord et le peuple après. Et donc, à mon humble avis, je pense que le slogan de Tshisekedi n'a pas été respecté partout parce que vous allez vous rendre compte que le pays, c'est un pays richissime, mais dont la population est misérable. Et donc, au moins que le fils de Tshisekedi Félix prenne la chose au sérieux et qu'il se rende compte que le slogan de papa, le peuple d'abord, a vraiment son pèse en or. Revenons à votre question, je pense que même au sein de l'UDPS, je sens qu'il y a la notion du ventre d'abord et le peuple après. Parce que vous allez entendre qu'il y a des divisions, des fissures partout, il y en a qui créent la zizanie, qui sont en train de chercher qui gagner, qui maltraiter. Je me dis que ce pays vraiment n'a pas la chance de bien évoluer, d'autant plus que nous, les fils de ce pays, nous ne comprenons pas la notion vraiment du peuple d'abord. Donc juste pour revenir à ce que les confrères puis Gérard disaient, écoutez, tu m'appelles. D'abord signifie quoi? Il faut d'abord comprendre ce slogan-là, le peuple d'abord.
Nous devons, comme Tshisekedi s'est battu hein, aux côtés des autres, il a même saxé toute sa jeunesse, il a été arrêté combien de fois? Il s'est même opposé à quelqu'un qu'on appelait un grand dictateur hein, sur le plan mondial. Il était vraiment incontestable, Mobutu. Mais Tshisekedi a pris vraiment le culot de s'opposer à lui et pour que l'instauration de la paix soit faite en RDC. Et donc, à mon avis, je pense qu'au sein de l'UDPS, il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a des gens qui s'échirent d'ici et là pour que les uns et les autres se retrouvent, soit au sein du parti, soit dans le gouvernement, juste parce qu'il y a les intérêts égoïstes dans tout ce qu'ils sont en train de rechercher au sein du parti, mais également sur le plan général. Mais lui, matin, je suis en train également de fustiger l'attitude de certains de nos confrères congolais, de nos concitoyens, qui sont en train de penser que Tshisekedi ne peut pas être élevé au rang d'héros national. Mais loin de tout sentiment, la vie de Tshisekedi doit être saluée par tous. Il est le seul qui a tenu devant les grands systèmes dictatoriaux de notre pays. Et vous allez vous rendre compte que Tshisekedi n'a pas eu peur, il a sacrifié toute sa jeunesse, comme je le disais, il mérite. Il répond à certains critères, il y a tout un critérium pour que quelqu'un soit élevé, n'est-ce pas, au rang d'héros national. Tshisekedi, c'est un personnage mythique et légendaire de ce pays, qui ne le sait pas, n'est-ce pas? Il a joué un rôle principal dans l'instauration de la démocratie dans ce pays, et par sa constance et son radicalisme. Il est resté vraiment radical. Il mérite également, à mon humble avis, hein, étant donné que ça lutte pour l'effectivité de l'instauration de la démocratie est illégale et incontestable parce que il est le seul qui a pu dire non à un dictateur du nom de Mobutu.
Merci Tshisekedi, un personnage mythique et légendaire. C'est avec ces mots que nous allons passer à notre deuxième thème de ce soir. La RDC a enregistré ces derniers temps plusieurs cas de naufrages sur ces rivières et sur ces lacs, outre les cas signalés il y a quelques semaines sur le lac Kivu, où il y a eu une centaine de victimes. Il est aussi rapporté 3 morts à Ikelemba, dans la province de l'Équateur, mercredi dernier. On écoute ce reportage de Dominique Olombi.
Le convoi Tabou a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi au niveau de la localité Ngolo, à environ 50 km en amont de Mbandaka sur la rivière Ikelemba. Il descendait la rivière en provenance de Bolomba. Un petit garçon dont le corps a été repêché y a trouvé la mort et 3 autres passagers sont portés disparus. L'embarcation qui naviguait de nuit sans phare aurait heurté un trop d'arbre immergé. Un autre convoi de pirogues motorisées toujours en provenance de Bolomba a chaviré mercredi matin au port privé Bakita à Mbandaka. C'est à la suite d'une fausse manœuvre effectuée par les conducteurs qui voulaient effrayer un passage entre d'autres embarcations en stationnement. Pas des morts, mais des pertes importantes et des marchandises des passagers. Le comité fluvial de Mbandaka, Jean-Pierre Botoke, accuse le service chargé de la sécurisation de la navigation fluviale de ne pas faire observer les règles aux navigateurs. De commun accord avec l'amiral commandant du 2e regroupement naval de la force navale, il attend relever de leurs fonctions tous les agents de ce service qui favorisent cette incurie. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapangé, Radio Okapi.
Merci à vous Dominique Olombi. 45 corps ont été repêchés sur le lac Maïndombé après le naufrage d'une baleinière samedi dernier. Puis Gérard Elenga, journaliste politique, et comment vous analysez ces phénomènes de naufrage à répétition sur le lac et les rivières de la RDC?
Non, écoutez, pour les cas précis, c'est bien évidemment chez moi. Alors ça me fait très mal. Je voulais d'abord m'incliner particulièrement devant la mémoire de ces enseignants qui, avant peut-être cette noyade, ont perdu aussi gratuitement comme ça la vie du côté de la province de Maïndombe suite toujours à ces embarcations, soit à baleinière, soit à grime, de façon un peu exagérée. Vous savez, Guimaté, moi je suis fils d'une enseignante. Ma mère, c'est Maman Véronique Elenga, que je salue en passant, qui a fait de moi ce que je suis. Et quand les enseignants périssent gratuitement comme ça, à cause tout simplement de l'irresponsabilité de l'État, ils doivent, avec leur maigre salaire de 100 000 francs, 80 000, 70 000, se déplacer pour faire 80 km, 100 km, 30, 40 pour aller retirer cet argent, à cause de toutes ces banques qui sont en réalité les boutiques d'affaires de certains hommes politiques ici, ça ne fait que regretter. Mais ceci est également fait appel à cette question de cette problématique de tout ce que nous sommes en train de voir par rapport à notre navigation fluviale. Quelle est la politique justement au niveau national, arrêtée au niveau du gouvernement par rapport à la navigation fluviale chez nous? ça pose de sérieux problèmes. Je me dis, comment dans une embarcation d'une baleinière, on peut avoir 300 et quelques personnes? Je me dis, mais cette baleinière avec quelle grandeur finalement? Donc les gens vont comme ça parce qu'ils n'ont pas de choix. Nous pouvons beau les reprocher, mais parce qu'ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas d'autres moyens pour quitter tel coin X pour arriver à tel coin X, si pour ne pas prendre ces moyens de transport. Vous savez, ici à Maluku, je suis parti, les gens prennent ce qu'on appelle, si c'est Ibora, si c'est Iborala. Il y a aussi ces rassemblements de grumes, de gros arbres là, et que les gens dorment dessus, avec tous ces genres de risques, on appelle ça radeau. Donc ça pose des sérieux problèmes. Il faudrait que la politique au niveau du gouvernement puisse repenser un peu la manière de voir, pour que au-delà de tous ces bandits de FDLR qui sont en train de tuer les Congolais à l'Est, que nous ne puissions pas avoir d'autres morts de plus et gratuitement comme ça, à cause de ce manque de politique au niveau de notre navigation fluviale. Ça pose un sérieux problème.
Merci Jean-Marie Camoua, directeur de publication du journal L'Avenir paraissant à Kinshasa. En suivant puis Gérard et Elena, comment vous comprenez l'attitude des décideurs politiques face à cette récurrence des naufrages?
Merci Guy Mathé. Juste deux secondes pour revenir au cas Tshisekedi, pour surtout au cas de l'IDPS, pour dire que seulement deux choses. La première des choses, les combattants et les militants ont besoin d'être bien informés. Donc il s'avère que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, les combattants sont un peu à l'abandon, ils se plaignent, ils ont besoin qu'on les prenne en considération, ils ont besoin qu'on les consulte et qu'on les prenne en charge. Des deux, par rapport au conflit qu'il y a présentement à l'UDPS, l'UDPS a des statuts. Il est important qu'en tant que parti légaliste, que l'IDPS puisse respecter et appliquer ses propres statuts.
Voilà. Par rapport à la récurrence de naufrages, comment vous comprenez l'attitude des décideurs politiques?
Non seulement que je m'incline à la mémoire de tous les compatriotes disparus, mais il est vrai que le problème se pose avec acuité et exige des solutions urgentes au niveau du gouvernement. Nous, dans nos papiers, nous n'avons cessé de demander au gouvernement d'organiser des états généraux. Parce que le gouvernement, disons, le président Félix vient d'arriver, il n'a pas encore un gouvernement, il n'a pas encore toute la situation à main. D'ici là, il aura son gouvernement. Nous pensons qu'il faille pour l'instant qu'il y ait des états généraux afin de faire l'état. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir un problème à la SONAS, à l'OGFREM, à gauche, à droite. On a des solutions ponctuelles. Mais il faut, comme le confrère Pigérard a dit, qu'on ait une politique générale en matière de transport, en matière de ceci ou de cela. Il s'avère aussi que nous avons un pays où il n'y a plus eu d'investissement dans les secteurs. Partout où les gens doivent voyager, c'est un peu des transports, disons, d'une nature traditionnelle, qui ne rassure pas et qui ne sécurise plus. Donc nous voulons aussi qu'une fois que le gouvernement sera installé, qu'il prenne des mesures afin d'investir pour permettre à ceux qui veulent se déplacent dans de bonnes conditions. Je vous donne un cas de la route Kabinda-Mujima, 150 km, mais pour seulement parcourir 150 km, c'est tout un parcours du combattant. Et ce sont des gens qui sont sur des camions agrippés avec des foufous, des haricots mélangés ensemble. Donc, quel État songe à réhabiliter les infrastructures? Il est vrai qu'il y a déjà un élan par rapport à la réhabilitation des infrastructures, mais nous voulons que le gouvernement puisse aller très loin en dotant nos provinces, en dotant les différents territoires des moyens conséquents afin de permettre à la population de voyager dans de bonnes conditions. Pour revenir au cas de Maïndombe, vous vous rendez compte que ce sont des enseignants...
Où il y a eu jusque-là 45 voilà. morts.
Ce sont des enseignants qui quittaient d'un coin vers un autre pour se faire payer par les billets de la bancarisation. Donc c'est aussi une occasion pour interpeller non seulement M. Jean-Louis Kayembe qui s'occupe de la bancarisation, mais aussi le gouvernement afin d'implanter les succursales des banques dans les différents coins afin de permettre aux enseignants d'être payés là où ils sont plutôt que de les obliger de prendre
des risques pareils pour toucher 80 000 ou 100 000 francs congolais. C'est ce qui est un peu décevant.
Merci. Alain Samuel Tshibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant de Lubumbashi dans la province du Katanga. Et au-delà de ces débats sur la politique générale, n'est-ce pas, par rapport à la navigation fluviale, il y a des mesures qui ont été prises. Hein. On se rappelle qu'à l'époque du ministre Justin Kalumba Mwanangongo, une série de mesures avaient été prises pour essayer de prévenir ce genre d'accidents, mais on se rend compte que ces mesures n'ont jamais été appliquées, surtout par la base, notamment par les armateurs et puis les personnels navigants. Et à votre avis, que faut-il faire pour que ces acteurs, n'est-ce pas, qui sont sur le terrain, puissent se conformer à toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement central?
Permettez que Guy Maté, et je reviens un tout petit peu hein, par rapport au propos du confrère qui parle sur le dossier UDPS, Catherine Seldon, il voudra bien sûr nous dire qu'il faudra que la base soit dorlotée à tout moment. Non, écoutez, c'est pas à Tshisekedi Félix de commencer à descendre à chaque fois, dorloter la base, caresser tout le monde. Quand est-ce qu'il faudra consulter la base? La question qui devrait se poser, parce qu'il dit, non, il faut, c'est qu'il s'est fait à l'UDPS, la personne qui est là, c'est que il faudra consulter la base, mais jusqu'à quand la base va rester bébé? Et moi, je pense que c'est le bas sur la consultation de la base est révolue. Il faut que les militants de l'UDPS comprennent qu'ils ont maintenant le pouvoir, et ils doivent agir en tant que parti présidentiel, au lieu de ne pas se lancer dans les débats qui n'ont pas vraiment à leur plaisant de droit.
Voilà. Je menace sur la difficulté d'appliquer les mesures qui sont prises par le gouvernement.
Il y a une chose que je retiens, c'est l'absence de l'administration dans notre pays. Je voudrais insister sur ça parce que vous allez vous rendre compte que l'administration n'existe pas chez nous. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Tout le monde fait la loi. Vous allez vous rendre compte que c'est bien beau de prendre des mesures, et c'est bien beau de donner les ordres, mais est-ce qu'il y a les suivis? Est-ce qu'il y a les mesures qui sont prises par rapport à ces ordres qu'on donne? Définez un peu du matin, c'est comme qui dirait, vous allez prendre une chèvre, vous mettez la farine des manioc dans une maison, vous enfermez la chèvre et vous dites, ne mange pas cette farine. Voulez-vous me dire que la chèvre ne sera pas tombée? C'est la même chose. Il y a les agents de l'État qui travaillent, mais qui ne vivent que de ça. Ils sont corrompus. C'est la corruption. Il y a la corruption, il y a la politique d'influence. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne vivent que de ce travail. Ils sont corrompus. Au lieu de transporter, c'est pas moi, 30 personnes, 40 personnes, il y a 200 personnes qui sont transportées. Vous allez vous donner raison, tout en fustigeant cette attitude des autorités. Ça, je dis que ça retombe sur le dos de l'ex-gouvernement, le gouvernement de Kabila qui a fait plus de 18 ans. Mais regardez les retombées. Voilà les retombées. Les gens qui meurent jour après jour, c'est parce que il n'y a pas eu l'administration dans les services de l'État. Il n'y a pas eu de contrôle. Les gens ne sont pas bien payés. Ils risquent de la corruption. Là, c'est un grand danger. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a une autre tâche de remettre l'administration en place. Il y a des gens qui peuvent crier haut et fort. Il y a des gens qui meurent. Mais écoutez, pendant que le président de la République avec son administration ne font pas un effort de faire les suivis, de mettre en place une administration qui est vraiment véridique et qui peut donner les faits escomptés, je pense que on va toujours pleurer nos frères, on va toujours pleurer nos sœurs, même les pauvres enseignants. Mais je suis vraiment abasourdi et quand j'entends que ce sont les enseignants qui se déplacent pour prendre leur salaire. Et d'ailleurs, je présente mes condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées. Et je me dis que c'est trop. On en a marre. Le gouvernement doit faire un effort pour restaurer l'administration.
Pierre Elenga, parlant des solutions, Alain Samuel Tshibata parle de la nécessité, n'est-ce pas, de restaurer l'administration. Et vous avez aussi évoqué la nécessité d'avoir une politique générale dans les domaines de navigation. Mais vous pensez que cela suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà?
Non, mais écoutez, il faudrait naturellement aller au-delà, parce que au Congo, c'est ça le problème. On assiste à une sorte de voyoucratie étatique. Les gens regardent, les choses se font, se répètent, les gens meurent, mais on ne dit rien. Nous avons un problème sérieux. Il faudrait que les pouvoirs publics puissent voir, qu'on puisse nous refaire l'ONATRA d'antan. qui est des bateaux qu'on commande, qu'on les fabrique, tout ça. Ma tante Ampogno avait amené un peu ce souffle-là, mais je ne comprends pas, après les quelques bateaux que nous avons vus, qu'est-ce qui reste encore? Alors que nous avons l'argent, on peut construire les bateaux. Le chantier naval n'est pas loin d'ici, on peut construire encore d'autres bateaux qu'on peut jeter sur le fleuve et que les gens peuvent facilement voyager. Parce que vous savez, le voyage aérien, il est un peu plus coûteux ici chez nous. Tout Congolais peut au moins à la limite voyager par voie routière ou soit par la voie fluviale. C'est le moyen qui est le moins coûté et il faudrait que le gouvernement pense là-dessus en termes de solutions. Je cite rapidement en disant que par rapport à Étienne Tshisekedi, ces obsèques nationales doivent être un moment de réconciliation, non seulement de son parti du PES, mais du peuple congolais. Kabila Joseph, qui n'a jamais vu Tshisekedi de son vivant, qui ne se sont pas salués, je demande comme citoyen congolais, comme mon ancien président, qu'il vienne à ces deuils pour que ça soit un moment de réconciliation, ne serait-ce qu'avec la dépouille mortelle de Étienne Tshisekedi.
Merci Jean-Marie Camboy, et moi en guise de conclusion.
Guy Maté, par rapport d'abord au confrère Tshibata, je n'ai pas demandé à Félix Tshisekedi d'aller consulter la base. Les partis IDPS est organisé. Je demande à ce que les instances dirigeantes de l'IDPS puissent prendre langue, puissent échanger à tout moment avec les combattants pour éviter ce qu'on est en train
et
de
par
observer.
Rapport à cette question
par rapport,
de
à la navigation, moi, je propose une thérapie qui va de la sanction à la réforme. Que l'on puisse d'abord sanctionner ceux qui se conduisent très mal, mais aussi réformer les secteurs, mais aussi investir dans les secteurs pour permettre aux Congolais de voyager dans les bonnes conditions.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basunga qui était à la technique et à Donna Madimba et Kéline Koute qui ont réalisé cette émission sous la supervision des Pélé et Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.